46 jours. Il aura fallu 46 longs jours pour entendre enfin parler de trêve et d'arrêt de bombardement entre Israël et la Palestine. 46 jours et plus de 15 000 morts, qu'ils soient israéliens ou palestiniens, pour qu'enfin les populations puissent s'offrir quelques heures de répit, se dire qu'elles vivront suffisamment pour voir un autre jour. 4 jours, 4 petits jours de trêve décidés par le gouvernement israélien pour libérer otages contre prisonniers. Et après ? Après, demander encore et encore l'arrêt des bombardements, la libération de tous les otages et la création d'un État palestinien. Tel est le credo que va suivre Amnesty International, notre invité cette semaine, pour parler du conflit israélo-palestinien, vous l'aurez compris, dans la lorgnette. Bonjour à tous et à toutes. Et bonjour Jean-Claude.
Bonjour Thomas.
On a invité Amnesty International aujourd'hui. L'émission est calée de longue date avec vous, Amnesty International, sur ce sujet. Pas évident à faire évidemment, mais qu'on tenait aussi à traiter ici sur Studio Zef, donc dans la lorgnette. On va longuement parler, on a toute l'heure là qui s'annonce pour parler de ce sujet, assez sensible évidemment, mais surtout on va s'intéresser à la crise humanitaire qui est en cours à ce niveau dans ce territoire géographique du Proche-Orient, avec toutes les conséquences et les répercussions que ça a sur la population et la politique internationale. On va reparler rapidement du contexte historique, c'est important, même si ça c'est pas le sujet qui va nous intéresser ce soir. On va résumer à grands traits l'origine du conflit israélo-palestinien. Entre l'entre-deux-guerres, l'Empire britannique, après la chute de l'Empire ottoman, va administrer la région pendant très longtemps. Puis les puissances coloniales anglaises et françaises au début du XXe siècle vont jouer un rôle clé dans l'administration de la région. Les frontières vont beaucoup bouger, les communautés vont être arabes et juives, vont être soumises à de nombreux mouvements et de nombreuses injonctions parfois contradictoires sur les volontés politiques des puissances coloniales, et puis des promesses et des déclarations qui seront souvent peu ou pas tenues. La situation actuelle peut trouver son origine en 47 ou en 48 même plutôt, avec donc le plan de partage de la Palestine qui prévoit 3 zones, une arabe, une juive, qui était peu ou prou égalitaire, en tout cas plus égalitaire qu'elles ne le sont aujourd'hui, et puis Jérusalem, une enclave un peu particulière administrée par l'ONU. Est-ce que ça vous va, Jean-Claude, comme résumé déjà ?
Oui, très bien. Alors effectivement, cette histoire entre Israël et la Palestine, elle est extrêmement complexe. Pour la résumer, 1948, les juifs, s'installent donc sur un territoire de la Palestine qui pour eux est un territoire absolument biblique. Après l'installation de milliers de juifs sur ce territoire, les populations arabes vont se révolter et une guerre va s'ensuivre extrêmement violente qui va se solder par une défaite totale de la population palestinienne. Et c'est entre 650 000 et 700 000 Palestiniens qui sont chassés de leur maison, qui sont chassés de leur région, qui sont chassés de leur pays. Et cela, de façon définitive, c'est la fameuse catastrophe, la Nakba, donc, dont on parle encore beaucoup de nos jours. Et beaucoup d'ailleurs de gens qui sont installés actuellement à Gaza sont des descendants de cette catastrophe de 1948-1949. 1967, c'est la guerre de six jours, une guerre extrêmement courte, extrêmement violente, suite à l'attaque de plusieurs pays, l'Égypte, la Jordanie et la Syrie contre Israël. Et même chose, ça se termine par une victoire totale d'Israël qui va s'enrichir de la bande de Gaza, de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et du plateau du Golan. Ce qui explique les problèmes qu'on a encore actuellement, qui vont s'aggraver encore avec la guerre du Kippour en 1974, toujours avec une attaque éclair de la part de l'Égypte et de la Syrie, mais qui va encore une fois, même si ça a été très très dangereux pour Israël, par une victoire israélienne. Donc là, on en est encore là avec des crises très fortes comme les intifadas, qui d'ailleurs expliquent aussi, en tout cas, elles sont concomitantes avec la naissance du Hamas. On a donc toujours des périodes extrêmement violentes entre Israël et les Palestiniens, que des accords de paix accord de paix entre les Égyptiens et puis les Égyptiens, les accords de Camp David avec Sadat, qui permettront d'ailleurs...
Les années 90 ont été assez fertiles sur le processus de paix. En tout cas, il y a eu un vrai engagement de l'Occident, notamment.
Oui, avec les accords d'Oslo, alors qui malheureusement n'ont pas pu être finalisés, parce que de la part du Hamas, des attaques incessantes de terrorisme sur le territoire d'Israël, qui ont fait que la paix était absolument impossible entre les Palestiniens et puis les Israéliens.
Ces processus n'aboutiront jamais, effectivement. Et
on était tout près avec les accords d'Abraham, et je pense aussi, c'est en tout cas d'après les analystes, l'une des raisons de l'attaque violente du Hamas contre Israël, c'est qu'un pays comme l'Arabie Saoudite était prête à entamer des accords de paix avec Israël, et que cela pouvait poser problème à un groupe religieux comme le Hamas, qui risquait de voir un pays ultra-orthodoxe au niveau de la religion musulmane prendre une place trop importante par rapport à ce que représente le Hamas sur la bande de Gaza.
Jean-Claude Deux, tu représentes donc Amnesty International, notamment sa branche du Loir-et-Cher, qui est fondée à l'international en 61 et en France en 63, c'est ça ?
Oui, c'est 10 ans d'écart à peu près entre les deux. Oui.
Okay. On en parlait avant la prise d'antenne. À partir de quand Amnesty International s'est saisi du sujet du conflit israélo-palestinien ?
Ça a toujours été un sujet d'actualité, mais au départ, quand Amnesty International a été créé par Peter Benenson, c'était surtout par rapport à des prisonniers politiques. On a toujours cette image de la naissance d'Amnesty avec la révolte d'un juriste anglais qui, en lisant le journal, s'aperçoit qu'on peut être condamné encore au Portugal en 1961-1963 pour avoir levé tout simplement son verre à la liberté et de se prendre une dizaine d'années de prison uniquement pour ça. Alors on rappelle quand même que en Europe, dans les années 60, le Portugal, Salazar, l'Espagne, Franco, la Grèce, une grande partie des pays de l'Est sont loin d'être de grandes démocraties.
La démocratie est encore un enjeu très récent, même en Europe.
Voilà, effectivement. Donc,
et il est menacé constamment.
Voilà, donc Amnesty est d'abord né effectivement de cette révolte contre l'injustice qui était portée à ces prisonniers. C'était un article qui s'appelait d'ailleurs « Les prisonniers oubliés ». Et puis petit à petit, parce que cette révolte a fait boule de neige, petit à petit on a eu la force quand même par le nombre de s'intéresser à des problèmes beaucoup plus encore mondialisés, quoi, on va dire.
Et donc parlons de l'actualité. Depuis un mois et demi, à la date du 7 octobre dernier, donc une attaque sauvage du Hamas sur Israël. Le mur de séparation tombe en plusieurs points et les membres du Hamas s'infiltrent sur le territoire israélien, avec s'en suivi le lendemain une prise d'otages de civils et de militaires israéliens. Ils sont plus de 250, il me semble. Réponse immédiate du gouvernement de Benjamin Netanyahu, on y reviendra sur ce personnage aussi, avec des bombardements à grande échelle de la bande de Gaza. Le travail d'Amnesty International sur place, comment il s'organise ?
Alors...
Effectivement, il fallait des fiches pour bien détailler.
Oui, parce que c'est assez compliqué quand même. Et on a donc, pour les enquêtes, on a ce qu'on appelle un laboratoire de preuves. Alors, le laboratoire de preuves, ça a été créé assez récemment, ça a été créé en 2013. Et pourquoi ? Parce qu'on a actuellement une profusion d'images, de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux.
Bien sûr.
Et il faut les vérifier. Il faut vérifier d'où ils viennent, si ils sont bien liés aux problèmes qu'on évoque.
Ouais.
Donc on a une trentaine d'enquêteurs et d'enquêtrices qui sont vraiment des professionnels. C'est une équipe pluridisciplinaire.
Ce sont des bénévoles d'Amnesty ?
Ce sont vraiment des gens qui sont salariés.
D'accord,
on fait vraiment à des gens qui sont vraiment des professionnels formés, effectivement.
Okay.
Donc elles recensent à distance toutes les violations des droits humains avec des outils d'investigation numérique de pointe. Donc ils vont okay. notamment pouvoir authentifier, contextualiser une image, une vidéo, la date, l'heure, le lieu de la prise de vue, etc. Et donc c'est eux qui vont contribuer à garantir que les informations provenant des zones de conflit sont bien exactes. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Alors, évidemment, ça prend du temps. On n'est pas dans la réaction immédiate. Amnesty International ne va pas dire, voilà, on a vu ça, et aussitôt on réagit. Mmh. On prend le temps vraiment d'être certain que les images que l'on voit, les informations qu'on a, peuvent être certifiées de façon certaine. On n'a pas droit à l'erreur, bien sûr.
On va tout de suite enchaîner sur ce temps long qui parfois peut être à minima prêté à confusion, parfois être instrumentalisé, on va l'entendre, avec un symbole de notre éditocratie médiatique. C'est parti.
Vous avez un coup de gueule à pousser sur, dites-vous, le grand silence des ONG sur la question des otages.
Oui, parce que depuis plusieurs semaines à présent, et c'est normal, de nombreuses ONG dénoncent les conséquences des bombardements israéliens sur Gaza. Et par exemple, sur Jabalia, vous l'avez montré, et on va regarder, MSF, évidemment, Médecins Sans Frontières, proteste contre les victimes, c'est normal. Mais hier, il y a une déclaration des familles d'otages qui étaient de passage à Paris, qui m'a interpellée. Personne ne réagit, et pourtant, la prise d'otages est interdite en vertu de l'article 3 des conventions de Genève. Et selon l'article 8 du statut de Rome de la Cour pénale internationale, la prise d'otage est un crime de guerre. Donc concerne les ONG notamment. Alors je suis allée regarder sur les sites des ONG, par exemple MSF, puisque Médecins Sans Frontières est mentionné. Aucune trace des otages. Et par exemple de leur situation sanitaire ou de l'aide médicale qu'ils pourraient leur apporter. Alors même qu'ils se retrouvent régulièrement avec des équipes d'ONG israéliennes sur les tremblements de terre du Maroc, d'Haïti, du Canada, dans le monde entier.
Alors, je ne suis pas le défenseur des ONG et de médecins, mais leur rôle c'est de soigner et les otages, ils ne peuvent pas y avoir accès, donc peut-être ça explique ce silence.
Alors, on va en parler des raisons, effectivement. On va parler de l'UNICEF. Alors l'UNICEF s'engage partout dans le monde pour les droits des enfants. Aujourd'hui, il y a 33 enfants sur les 240 otages âgés de 9 mois à 15 ans, dont une partie qui ont été enlevés sans leurs parents ou souvent assassinés sous leurs yeux. Qu'est-ce qu'il y a sur le site UNICEF ? On trouve des mentions générales sur la guerre Israël-Palestine et le nombre d'enfants touchés. Pas de bandeau otage, pas de bandeau otage enfant, pas de paragraphe consacré à ces enfants et aucune action engagée en faveur de ces enfants. Je ne dis pas que le reste ne doit pas exister, hein, au contraire, hein, je dis à côté, en plus, au moins. Passons à Amnesty International qui décroche la palme. Il n'y a aucune condamnation des massacres du 17 octobre. En revanche, il y a une inondation du site des messages pour protéger les civils, dont la mort est due, je cite, à l'apartheid israélien, au crime israélien. Je vous passe les détails. C'est ce que déplore Françoise Imrée, l'avocat et ancien ambassadeur de France chargé des droits de l'homme. Il déplore ce silence des ONG, leur reproche une faille empathique et aussi leur manque de rigueur. Il dit les droits de l'homme, c'est une discipline exigeante pour laquelle il faut parfois contrarier ses propres élans, penser contre soi-même. Il faut ce mouvement qui vous porte aux côtés de celui qui vous paraît le plus faible, contre celui qui paraît le symbole de la force, eh bien il faut parfois aller contre. Pourquoi ? Parce que quoi qu'on pense de la politique israélienne, les droits de l'homme sont universels. On ne les divise pas.
Donc il y aurait un deux poids et deux mesures dans l'empathie.
Mais oui. Pour moi, c'est frappant et c'est assez choquant. Pourquoi ce silence, vous en parliez ? Militantisme, d'abord. Et puis, par volonté de protéger des équipes en place à Gaza, qui sont sous le contrôle du Hamas. C'est vrai aussi. Et ils le savent, toutes les familles des otages, une chose est sûre, tous ceux qui demandent un cessez-le-feu ou une trêve humanitaire ne demandent jamais en même temps la libération des otages. Et ce silence-là est une douleur de plus.
J'ai l'impression de beaucoup de contre-vérités dans ce qu'on vient d'entendre, donc je voulais laisser à Amnesty International l'idée de se défendre. Alors elle l'a fait évidemment sur sa plateforme, sur son site internet, mais je voulais qu'on puisse revenir sur c'est des espèces d'accusations qui sont pour moi à minima fallacieuses.
Oui, alors on y a droit régulièrement, c'est pas trop étonnant. Alors moi je rappelle quand même, donc Amnesty International, c'est une organisation impartiale qui défend les droits humains et cherche à s'assurer que toutes les parties à un conflit armé respectent le droit international humanitaire et relatif aux droits humains. À partir de ça, moi j'entends que Amnesty ne s'est pas manifesté, on ne s'est pas manifesté immédiatement. On ne réagit pas, encore une fois, dans l'immédiateté sans vérifier un certain nombre de choses. Moi, j'ai reçu, j'ai lu ces informations, donc ces exigences, à l'attention des dirigeants mondiaux. C'est donc ce qu'a publié Amnesty International. Bien sûr, pas immédiatement au 7 octobre, un peu plus tard. Nous exigeons un cessez-le-feu immédiat de toutes les parties, ainsi que la réitération des appels suivants. Il y en a 7. Les parties doivent mettre un terme aux attaques illégales, notamment aux attaques menées sans discrimination, aux attaques visant directement des civils et des biens de caractère civil, et aux attaques disproportionnées. Israël doit permettre immédiatement l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire à la population civile de la bande de Gaza occupée. Israël doit lever son blocus illégal de ce territoire qui dure depuis 16 ans et autoriser sans délai la Commission internationale indépendante chargée d'enquêter dans le territoire palestinien occupé à se rendre sur place. La communauté internationale doit imposer un embargo général sur les armes à toutes les parties au conflit, compte tenu des graves violations constitutives de crimes de droit international qui sont commises. L'enquête en cours de la Cour pénale internationale sur la situation en Palestine doit recevoir un soutien total et tous les moyens nécessaires. Le Hamas et tous les autres groupes armés doivent libérer immédiatement et sans condition tous les otages civils et traiter humainement toutes les personnes qui sont retenues captives, notamment leur fournissant des soins médicaux, en attendant qu'elles soient libérées. Israël doit libérer tous les Palestiniens qui sont détenus arbitrairement. Et enfin, il faut s'attaquer aux causes profondes du conflit, notamment en démantelant le système d'apartheid imposé par Israël à tous les Palestiniens.
Voilà, je voulais qu'on puisse avoir
ce droit. Je pense que là, les choses sont claires. Ouais, exactement. Effectivement, à partir de ça, on peut effectivement dire ce qu'on veut.
On écoute un court extrait le lendemain, après justement avoir été débunké, comme on dit dans le milieu du journalisme. Ruth El-Krieff, donc, puisque c'est dont on parle, conclut ce passage.
Un mot, vous vouliez revenir sur la chronique d'hier.
Oui, bien sûr, parce qu'elle a fait beaucoup parler, elle a fait beaucoup réagir. Et je voulais revenir sur une phrase lorsque je parlais d'Amnesty International, où j'ai dit pas un mot sur les otages. Elle est factuellement fausse, puisque le 7 octobre même, Amnesty a demandé, vous allez le voir, la libération de tous les civils, dont les otages, et les nécessaires soins médicaux à leur apporter. Donc c'est une précision que je veux faire, très clairement et très nettement, mais elle change rien à ce que j'ai appelé le silence des ONG. Parce que comme journaliste, j'ai l'expérience de véritables mobilisations d'Amnesty qu'on a suivies, qu'on a appuyées tous. Et je connais leur efficacité, l'écho qui peut leur être donné. Et force est de constater que ce n'est pas le choix qui a été fait sur cette question.
Voilà pour la fin, et on n'en parlera plus de Ruth El-Krieff de l'émission. Celle-ci étant, elle pose une question qui m'a interpellé. Comment bien travailler dans ces zones-là? Comment on protège et c'est pour ça que ça prend du temps. Donc l'idée de pouvoir rentrer un petit peu dans la méthode de travail des ONG et de la vôtre en particulier, comment on travaille avec ces enquêteurs, comment on les protège, quels dispositifs sont mis en place, ce qui explique encore une fois le temps parfois nécessaire et contradictoire avec celui de l'information en continu de la chaîne pour laquelle travaille Ruth El-Krieff notamment.
Oui, alors malheureusement, Amnesty International n'a pas du tout les moyens, le pouvoir de protéger des populations. Mmh. Nous, on peut juste effectivement alerter l'opinion mondiale, à alerter les grandes ce monde sur des situations dramatiques. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est, je parlais tout à l'heure, donc, des spécialistes qu'on emploie, qu'on salarie pour enquêter sur le terrain. Mais malheureusement, il y a quelques pays dans le monde où il est devenu impossible d'envoyer des gens enquêter. Donc là, on a des gens sur place qui vont envoyer une documentation sur les horreurs qui peuvent être commises dans un pays, et c'est le cas dans la bande de Gaza, et c'est à partir de ces informations-là que Amnesty pourra réagir.
On va revenir sur le terme d'apartheid que vous avez utilisé, qui est dans le communiqué que vous venez de nous retransmettre. Est-ce qu'on peut revenir sur ce terme?
Oui. Alors, effectivement, qu'est-ce que l'apartheid? Alors, on va donner d'abord une définition pour savoir exactement de quoi on parle.
Ouais,
donc, l'apartheid est défini comme une violation du droit public international. C'est une grave atteinte aux droits humains. Et c'est aussi un crime contre l'humanité. Donc, il peut être vu à la fois comme un système, avec des lois, des politiques, des pratiques. Mais c'est aussi un crime avec des agissements spécifiques contre une population. Le plus simple pour expliquer l'apartheid en tant que système est d'abord de se pencher sur les définitions du crime d'apartheid. Mm. Ces définitions, elles sont énoncées dans la Convention internationale contre l'apartheid et le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Donc là, on rentre vraiment dans des choses pointues au niveau du droit. Alors, ces traités définissent l'apartheid comme un crime contre l'humanité commis lorsqu'un acte inhumain est perpétré dans le contexte d'un régime institutionnalisé d'oppression et de domination systématique d'un groupe racial, alors ça je l'ai mis entre guillemets, ouais, sur un autre, dans l'objectif d'entretenir ce système. Les actes inhumains, donc ça inclut les homicides illégaux, les blessures graves, la torture, les transferts forcés, la persécution, la privation des droits et des libertés fondamentaux. Pour identifier le crime d'apartheid, il est nécessaire de montrer qu'un système d'oppression et de domination est en place. Il faut s'appuyer sur les interprétations d'experts juridiques. Donc Amnesty considère qu'il s'agit du traitement discriminatoire, systématique, prolongé et cruel, infligé par un groupe racial d'êtres humains à un autre, dans le but de contrôler ce second groupe. Alors le terme groupe racial, ouais, il est en référence au peuple juif et aux Palestiniens. C'est ce qui est employé dans le droit international comme terme. Moi, personnellement, je n'aime pas trop parce que le terme race, il n'a aucun fondement scientifique. Mais c'est comme ça que les Arabes et les Juifs se distinguent les uns des autres avec des pratiques culturelles, des aspects physiques différents. Donc, le terme groupe racial est resté dans les termes juridiques.
Et donc, Amnesty International considère qu'au regard de tout ce qui a été défini, Israël est en situation... La Cisjordanie et la bande de Gaza sont en situation d'apartheid vis-à-vis d'Israël.
Oui, alors là, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Alors effectivement, donc, quand on parle d'apartheid, on met en cause non pas la population israélienne dans son ensemble, mais un système politique qui malheureusement s'est renforcé avec la présidence de Benjamin Netanyahou. Mais oui, on a de façon absolument certaine un régime d'apartheid. Mmh.
Vous parliez du droit international dans les définitions d'apartheid. Un des reproches qui vous a été fait aussi aux ONG, pas qu'à vous, ça a été de ne pas qualifier le Hamas de groupe terroriste.
Oui, alors,
on y revient.
Effectivement, bon, on ne peut pas se permettre de traiter le Hamas de groupe terroriste simplement parce qu'on emploie un langage juridique. Terroriste n'est pas un terme juridique. Ça n'empêche pas que on s'indigne profondément par les choses horribles, inacceptables, abominables que le Hamas a commis le 7 octobre. C'est quelque chose absolument qui nous révulse à Amnesty de façon certaine et qu'on condamne très fermement.
Sachant que, je me renseignais aussi, le Hamas est considéré comme une organisation terroriste par une petite portion du monde, effectivement, et notamment l'Occident, hein, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union européenne et Israël. Ce qui fait que l'ensemble des autres pays du globe, ce qui en fait l'extrême majorité, ne qualifie pas le Hamas comme un groupe terroriste. Donc on voit bien que ce terme est sujet à caution.
Oui, alors effectivement, on n'est pas sur une toute petite région, hein, comme en plus si on prend Gaza, c'est 40 km du nord au sud, ouais, c'est 12 km sa plus grande largeur, donc on imagine, c'est même pas le département du Loir-et-Cher, avec 2 300 000 habitants dans cette zone, l'une des populations les plus denses du monde. Et sur ce point-là, avec Israël qui est aussi un petit pays au niveau de sa superficie, ça irradie de face au niveau mondial. On voit bien que il y a effectivement des positions par rapport à ce qui se passe entre Israël et la Palestine qui sont des positions qui sont liées aussi à des différences politiques profondes dans le monde actuel. Alors il y a les pays comme qu'on appelle le BRICS, ils sont 11 maintenant, avec notamment Brésil, Russie, Chine, Inde, qui au mieux vont être neutres. Pardon. On va avoir des pays qui sont absolument contre Israël. Mmh. Et puis, on voit peut-être une Europe maintenant un peu plus isolée dans les conflits mondiaux. On l'a vu par rapport aussi aux pays comme le Mali, ce qui s'est passé récemment. Et un pays comme l'Ukraine également, des prises de position qui sont de plus en plus éloignées de l'Europe, de la politique européenne et américaine, c'est sûr.
On fait une petite pause pour reprendre un peu nos esprits et on revient tout de suite après.
Je suis né dans un pays qui n'existe pas. Je suis né sur une terre qui n'est plus à moi. Une terre occupée, une terre piétinée, une terre autonome sur le papier. Je suis né sous les you-you et les cris de joie. Je suis né après bien d'autres dans le camp trop étroit. La mer était ma frontière, mon sanctuaire, pour oublier les colons, le blocus et la misère. J'ai grandi bercé au son des récits de l'exil. J'ai grandi au creux des vies suspendues à un fil. Le fil d'un espoir tenace dans l'impasse. Un jour oui, la tête haute, nous aurons notre place. Nous aurons notre place. Nous aurons notre place. J'ai grandi trop trop vite entre deuil et oubli. J'ai grandi en tutoyant l'horizon infini. Le sable chaud sous mes pas me portait vers l'au-delà. Je serai si grand, si fort, on ne verra que moi. J'ai vécu à Gaza sans jamais en sortir. J'ai vécu de jour en jour sans remords ni soupir. Malgré les barbelés, le couvre-feu, les blêmés, j'ai chéri au fond de moi le rêve d'en échapper. Le rêve d'en échapper. Le rêve d'en échapper. J'ai vécu les vagues humaines de l'intifada. J'ai vécu cortège et grève, drapeau à bout de bras. Nous chantions à plein poumon notre passion, tandis qu'au-dessus de nous paradaient leurs avions. Je suis mort à tombanti d'une balle perdue. Je suis mort assassiné par un homme inconnu qui croyait faire son devoir en tirant dans le brouillard sur des ombres ennemies aux armes dérisoires. Je suis mort comme mille autres, mille après mille avant. Je suis mort un soir d'automne, un soir de ramadan. Mais je ne voulais que vivre, vivre libre. Je ne voulais qu'être libre. Je ne voulais qu'être libre. Je ne voulais qu'être libre.
De moins du groupe Zebda. La chanson qu'on vient d'entendre va me faire glisser vers une des tragédies, s'il fallait en faire ressortir une de ce dernier mois et demi, qui est le bombardement de l'hôpital Al-Shif. Jean-Claude, qu'est-ce qu'on peut dire de cette action militaire israélienne?
Ben nous, de toute façon, on considère comme un crime de guerre, Amnesty International, on considère comme un crime de guerre le fait de bombarder de façon comme ça indifférenciée des civils. Donc, tout ce qui se passe en ce moment, des bombardements israéliens sur la bande de Gaza, c'est absolument inacceptable parce qu'il y a des conventions internationales qui interdisent de bombarder sur des zones civiles. Alors, évidemment, c'est complexe pour Israël puisqu'on sait bien que le Hamas se sert de bouclier humain pour justement pouvoir poursuivre la lutte, mais c'est qu'on nous dise, qu'on nous parle pas de bombardements qui permettent de pratiquer des frappes chirurgicales. On dit toujours l'exemple, vous placez un ballon au milieu d'un stade, vous envoyez une bombe dessus, ça détruit que le ballon. Non, ça détruit le stade entier et tous les gens qui sont dans ce stade. Donc alors après, encore une fois, il faut bien sûr surtout être sûr de ce qui se passe vraiment sur place, puisque quand les informations qu'on peut avoir émanent seulement d'une partie du conflit. On peut avoir aussi une guerre des ondes et puis des fake news. Donc, encore une fois, il faut du temps pour vérifier tout cela. Mais de toute façon, penser qu'en 2023, on bombarde des hôpitaux, c'est quelque chose d'absolument insupportable, c'est évident.
Quand bien même ils abriteraient des caches militaires.
Bien sûr.
On continue avec le Hamas. C'est de notoriété publique que ce groupe est en partie financé par Israël.
Oui. Alors là, effectivement, donc, pour comprendre la naissance du mouvement Hamas, il faut se rappeler des années 50, hein, carrément, avec les fédayines qui sont nés d'ailleurs à Gaza. Ce sont des Palestiniens qui ont décidé de lutter contre Israël dès les années 50, donc juste après la fameuse catastrophe Nakba. Et Gaza, ça a été le berceau de cette première lutte armée. Et puis les fédayines, c'est eux qui ont fondé le Fatah. Mm. Et le Fatah, c'est lui qui a pris le contrôle en 1969 de l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine.
Ouais.
Il faut savoir que le Hamas, c'est une émanation des frères musulmans. Il s'est développé effectivement, comme tu viens de le dire Thomas, dans la bande de Gaza, grâce à la complaisance des autorités israéliennes d'occupation, qui considéraient que c'était un contrepoids aux nationalistes de l'OLP. Donc effectivement, le Hamas a pu s'implanter parce qu'il avait des facilités de financement que les Israéliens refusaient à l'OMP. Et c'est quand il y a eu la première intifada, donc un soulèvement de la jeunesse palestinienne en 1987, qui a poussé l'OLP à reconnaître l'État d'Israël et à entamer un processus de paix, les fameux accords d'Oslo dont on parlait tout à l'heure en 1993, que le Hamas a été fondé à partir des frères musulmans. Et d'emblée, le Hamas s'est opposé à l'OLP. Ensuite, au processus de paix. Alors, au début, cette division des Palestiniens, elle n'était pas forcément mal vue par le régime israélien.
Bien sûr, j'imagine.
Divisé pour mieux régner, bon, voilà, ça on connaît. Et bon, petit à petit, eh bien, c'est le Hamas, en tout cas sur la bande de Gaza, qui a pris la supériorité, qui a pris autorité sur l'OLP. D'ailleurs, actuellement, bon, alors ça s'est fait de façon même, on va dire, quand même par des votes, puisque lorsqu'il y a eu des votes, c'est pour les élections au Parlement palestinien, c'est le Hamas qui a emporté le maximum de voix. Ben oui, effectivement, donc il y a une véritable guerre civile, hein, il faut le savoir, entre le Hamas et puis l'OLP, qui donc s'est conclue par ce qu'on appelle maintenant un Fatahland sur la bande de Gaza, et puis comment on appelle ça, non pas un Fatahland, mais en tout cas une domination de l'OLP sur la Cisjordanie. Mais comme en Cisjordanie, bien des territoires, en fait, sont soumis à l'autorité israélienne, l'OLP a obligation de rendre des comptes à l'autorité israélienne, ce qui effectivement l'affaiblit aux yeux du Hamas.
Est-ce qu'on n'est pas dans la même situation, alors j'ai plus tous les éléments de contexte en tête, mais est-ce qu'on n'est pas dans la même situation que les États-Unis vis-à-vis d'Al-Qaïda dans les années 80 ou pour dans la région de l'Afghanistan où les États-Unis ont financé Al-Qaïda afin de se débarrasser des petits groupes communistes qui les gênaient.
Oui, alors c'est des erreurs effectivement que les pays
et que
ont
le
pu
monstre
commettre.
Un peu lui échappe finalement.
Voilà effectivement, hein, c'est vraiment avoir ouvert une sorte de boîte de Pandore qui fait que en divisant pour régner, à un moment bien ça marche trop bien et ça se retourne contre
le pays initiateur.
Contre les Israël ou contre les États-Unis effectivement, et ça termine par la catastrophe quoi.
On va parler désormais de la trêve, hein, alors qui devait prendre action dès ce matin et qui finalement, pour des négociations de dernière minute, devrait, il faut utiliser le conditionnel, nous sommes en direct ce jeudi soir et pour l'instant la trêve, bien que décidée hier, n'est pas encore en place, donc devrait prendre acte demain matin avec la libération de 50 otages, peut-être même, on parle de 100 à l'heure actuelle, et de 150 prisonniers. Prisonniers israéliens. Alors, je me suis renseigné. Le site s'est déjà noté, donc que vous jugez que cette trêve de 4 jours est déjà une blague, entre guillemets. Alors, le mot est peut-être pas le mieux choisi, mais qu'une trêve de 4 jours, ce n'est pas une trêve, finalement, et qu'il faudrait qu'elle soit beaucoup plus longue pour envisager de sécuriser les populations sur place.
Oui, bien sûr. Enfin bon, au moins, il y a une ouverture. Il semblerait qu'effectivement, les diplomaties, là, marchent vraiment à peur et qu'il y a des tractations. Alors évidemment, avec le rôle du Qatar où les dirigeants du Hamas sont réfugiés, le rôle des États-Unis, bien sûr, de Bahreïn. Enfin bon, il y a plusieurs pays en ce moment qui, de toute façon, n'ont pas intérêt à ce que la crise se prolonge parce que on pourrait penser, alors effectivement, un pays comme l'Arabie Saoudite, les accords d'Abraham qui devait permettre un rapprochement entre Israël et puis l'Arabie Saoudite. Là, ils vont être entravés certainement pour pas mal de temps. Mais des pays comme le Maroc, je pense au Maroc ou au Bahreïn, qui avaient obtenu quand même de gros avantages en ayant signé des accords de paix avec Israël, n'ont pas du tout intérêt à ce que ces avantages leur échappent. Reconnaissance de la suprématie du Maroc sur le Sahara occidental, par exemple, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour le Maroc. Le Bahreïn, l'obtention de bons bombardiers F-35, une livraison de F-35 bombardiers par les États-Unis, sont quand même des choses extrêmement importantes pour ces deux pays qui sont peut-être pas tout à fait prêts à y renoncer. Et de toute façon, le Hamas représente aussi un danger pour ces pays. Donc ne l'oublions pas. Et tout ça fait que même si les processus d'Abraham, de paix d'Abraham, sont fortement remis en cause actuellement, il y a quand même des notes d'espoir dans un monde effectivement qui en ce moment va très très mal.
Quel est le rôle du Qatar et des Émirats arabes unis dans les négociations ?
Il est certainement extrêmement important, hein, même si effectivement ce sont le Qatar, en tout cas, c'est un tout petit pays au niveau de la superficie. On peut pas parler du Qatar comme d'une puissance mondiale, mais c'est un pays extrêmement riche. C'est un pays qui a vraiment l'ambition de placer ses billes à travers le monde entier, et donc qui peut jouer. C'est le style de beaucoup de pays, un double jeu entre soutien du Hamas et en même temps peut-être pas aller trop loin dans les conflits. Donc, en tout cas, c'est un partenaire. Là, c'est pas du tout... je peux pas du tout en parler en tant que... avec la parole d'Amnesty International. Mais là, c'est les affaires diplomatiques qui sont effectivement extrêmement complexes. Pas toujours... je crains soucieuse de la morale.
Justement, j'allais y venir. C'est un équilibre subtil, j'imagine, pour Amnesty International. On est dans l'idée d'un problème après l'autre. On peut se réjouir que des négociations et une trêve puissent avoir lieu et que ces pays-là jouent un rôle dans les négociations, mais ce ne sont pas des modèles de démocratie. Vous avez largement milité contre cette Coupe du Monde au Qatar, en l'occurrence, oui. La dernière.
Mais on voulait ramener la Coupe à la raison.
C'est ça, ouais. Et donc, effectivement, il y a quand même une espèce de dissonance cognitive qui doit s'opérer pour les ONG.
Ah ben, nous, de toute façon, notre rôle, c'est encore une fois...
Mais un problème après l'autre.
Oui, alors c'est pas seulement un problème après l'autre. C'est de toute façon, ce qui est condamnable, on le condamnera. Nous, on a au moins, cette chance, cette opportunité de pouvoir avoir une parole libérée par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Et on est persuadé que grâce à... des organisations internationales de droits humains, et on n'est pas les seuls, bien sûr. Mais on va tous dans le même sens, on peut faire avancer les choses et on peut effectivement amener les populations à réfléchir, encore une fois, aux droits humains et à la protection des civils et au refus que des gens soient assassinés uniquement parce qu'ils appartiennent soit à une ethnie, à un pays. Ça, c'est absolument insupportable.
Parlons de l'avenir. C'est une voie qui ce serait la seule finalement disponible, la création de deux États, un État israélien, un État palestinien.
Alors encore une fois, nous on n'est pas là pour influencer et dire aux gens ce qu'ils doivent faire.
Mais c'est votre position à Amnesty ?
On n'a pas une position par rapport à ça. On peut pas en avoir. C'est vraiment nous ce qu'on veut faire, c'est permettre au pays de discuter, de s'asseoir ensemble autour d'une table et de trouver une solution. Une solution pacifique qui permette à ces deux peuples de vivre en paix, de façon durable. Alors donc, si Palestiniens et Israéliens décident que cela peut se faire sur deux entités, sur deux États différents, on ne peut que s'en réjouir. Mais encore une fois, à aucun moment, nous, Amnesty, mais je pense que ça c'est valable pour n'importe quelle association ONG dans le monde, on ne peut décider à la place des gens. On n'a pas du tout cette ambition-là, ce n'est pas du tout notre rôle.
Ok. Merci Jean-Claude. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur des messages qu'Amnesty porte sur ce conflit ?
Alors, je dirais juste que si les gens ne connaissent pas le groupe de Blois qui existe, on a une quinzaine de personnes, une quinzaine de militants, on peut toujours nous joindre sur blois@amnestyfrance.fr. Ouais. Je laisse aussi un numéro de téléphone, on peut nous joindre.
Allez-y.
Le 06 15 79 91 65. Et notre prochaine réunion aura lieu donc à la Maison des Relations Internationales 10 Allée Jean Amrouche à Blois, le 6 décembre à 20h. Mais le mieux, c'est de passer un coup de fil ou de nous envoyer un mail parce que quand on accueille de nouveaux militants, on essaie de les recevoir par deux dans un endroit... sympathique, et puis d'expliquer un petit peu calmement qui on est, ce qu'on fait. Sinon, je ne veux pas du tout faire de la publicité pour pour Amnesty, mais je voudrais parler de cette revue publiée aux éditions Autrement.
Ouais.
C'est un atlas géopolitique d'Israël qui est écrit par Frédéric Hansel. C'est vraiment extrêmement intéressant. Alors ça, c'était publié juste avant le conflit,
okay.
Mais ça permet quand même de voir à la fois la complexité de ces problèmes et de voir ça aussi de façon un peu plus en faisant un pas d'écart par rapport aux horreurs qu'on vit en ce moment. Et moi, je l'ai découvert lors d'une émission des dessous de cartes,
ouais.
Qui est aussi une excellente émission
où
Frédéric Hansel intervenait et j'ai trouvé ça extrêmement riche et extrêmement intéressant.
Très bien, merci beaucoup Jean-Claude
Mikulo. Merci à toi de m'avoir accueilli.
On remet évidemment cette émission sur la page de La Lorgnette sur le site internet de Studio Zef. On rappelle pour terminer que jusqu'ici, malheureusement, ce n'est pas fini. Il y a eu plus de 15 000 morts, 1 200 Israéliens, la plupart des civils, et plus de 14 000 Gazaouis qui sont décédés et donc encore plus de blessés depuis le 7 octobre. On se quitte, c'est la fin de La Lorgnette. On se quitte évidemment donc comme chaque semaine avec le journal de bord d'un élu local de Nicolas Ourgelet et de Gaël Bernard. À 18h à suivre, ce sera la Roxette de l'ami Christophe. Bonne soirée à tous et à toutes sur Studio Zef. Merci.
C'est l'heure du journal de bord d'un élu local. C'est l'épisode 95 et il s'appelle « Être conseiller municipal sans délégation, est-ce utile ?» avec notre invité Axel Dieuzet. C'est parti. Bonjour Nicolas.
Salut Yael.
Alors c'est la rentrée aujourd'hui ?
Ouais, c'est la rentrée.
Ouais, c'est la rentrée pour nous. C'est un peu dur la rentrée ?
Ça va, ça va.
Ok, ouais.
Bon, on a eu des belles vacances.
Ouais, bon, bah moi ça va aussi puisque tu demandes. on a la joie aujourd'hui de recevoir Axel Dieuzet. Salut Axel.
Salut.
Axel, t'es conseiller municipal à la ville de Blois.
Tout à fait.
Ok, et du coup aujourd'hui on va parler un petit peu de ton parcours militant, on va parler un petit peu... De ce que tu es en tant que conseiller municipal. Je vais commencer par une première question choc, une première question où je vais y aller direct.
Je suis prêt.
T'es prêt ?
Je suis prêt.
Ça sert à quoi ? Parce que t'as pas de délégation. Alors ça sert à quoi un conseiller municipal qui a pas de délégation ?
Alors c'est une très bonne question. C'est une question que je me pose assez régulièrement. À quoi ça sert ?
Est-ce que ça sert à rien ?
Je pense pas que ça serve à rien. Je pense que, mais ça nécessite un peu de travail personnel pour arriver à trouver à quel endroit on peut être utile, parce que ça apparaît pas forcément comme ça de prime abord. En fait, moi, j'essaye de choisir certains sujets sur lesquels j'essaye de creuser un peu plus, éventuellement de proposer des choses à mes collègues, de mettre en avant les questions que je me pose, les sujets qui me semblent intéressants.
Donc, ouais. Et alors, du coup, il y a quelque chose que je n'ai pas dit en te présentant, c'est que tu fais partie du groupe Blois Naturellement, dans le même groupe que Nicolas. En quoi tu peux les aider, tu peux aider tes collègues, c'est à quel endroit ?
Alors, du coup, mon rôle, il y a effectivement plusieurs rôles. Il y a le rôle au sein du groupe Blois Naturellement, il y a le rôle au sein de la majorité municipale de Blois, et puis du conseil municipal de Blois. Au sein du groupe Blois Naturellement, mon rôle est de participer à la vie de ce groupe. Justement, toujours pareil, en essayant de développer des sujets. Alors moi, je pense que j'ai un petit peu un rôle d'organisation, de vigie sur certains sujets. J'essaye notamment sur tout ce qui est... programme, etc., d'avoir toujours un peu une prise de recul sur nos engagements et vers où on va, et puis d'essayer d'aider quand je peux. Et puis même chose, hein, c'est les thématiques que j'essaye de creuser, je les creuse pour le groupe, mais au final pour la ville de Blois concrètement. Et puis également, il y a aussi des sujets agglo, parce que moi je suis aussi conseiller communautaire à Aglopolis, donc qui a encore un autre rôle. Mais de toute façon, tous les sujets qu'on traite, on les aborde par l'angle du territoire au sens large, et pas spécifiquement uniquement Blois forcément.
Ce qui est intéressant, Axel, déjà on s'est rencontrés alors qu'on se connaissait pas, et on se trouve dans le même groupe alors qu'on se connaissait pas, parce qu'on a deux parcours militants différents. C'est-à-dire que moi je fais partie des écologistes, et donc c'est dans cet accord que je me suis retrouvé conseiller. Et Axel, en fait, on s'est rejoint à un moment donné où il y avait cette même idée de travailler sur du fond et de construire du programme. On a longtemps parlé, on a déjà parlé sur cet épisode du programme commun qu'on avait construit pour l'Union de la gauche, etc.
Sur ce podcast, tu veux dire ?
Sur ce podcast, du fait qu'on avait d'abord construit un programme commun qu'on avait co-signé avec le PS avant de partir ensemble. Et ce que je dois dire, et c'est que Axel a été un des premiers initiateurs de ce programme commun. C'est-à-dire qu'avant qu'on fasse ces ateliers participatifs avec les citoyens et tout ça, lui-même, il avait lancé une initiative quand tous les partis commençaient à se demander est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, sous quelle forme. Toi, c'était pas ton sujet, c'était déjà de travailler sur le fond. Tu peux peut-être nous raconter un peu ça?
Oui, effectivement, moi, mon but, c'est que les gens se parlent déjà. J'aime pas quand, notamment à gauche, chacun travaille dans son coin et qu'on se retrouve un peu au dernier moment et faire de tordre un peu les choses. Et moi, j'aime qu'on parle du fond, qu'on rentre un peu dans la technique aussi. Alors après, c'est un peu des formations professionnelles, ou en tout cas, moi, j'ai plutôt j'ai une formation, on va dire, d'ingénieur sur les questions qui touchent à la ville, etc. Donc ça c'est des sujets, certains sujets que j'ai beaucoup travaillé. Et voilà, je suis plutôt assez rapidement dans la technique et j'aime bien aller au fond des sujets. Donc là, effectivement, si on parle concrètement de la dernière élection municipale, assez tôt, on va dire un an et demi avant, voire deux ans, on se posait la question de pas... Enfin, moi, ma question, c'était pas comment est-ce que je vais être élu, mais plutôt... C'est quoi le programme qui doit être porté, ou comment on se met en action pour développer des idées et avoir quelque chose de construit. Mon but, c'était ça. D'ailleurs, très honnêtement, je ne pensais pas qu'à la fin, je serais conseiller municipal. Ce n'était pas du tout le but. Ça s'est fait par, on va dire, un concours de circonstances. Mais mon ambition, c'était avant tout de participer de manière active à la construction d'un programme de fond. Et que les gens se parlent, surtout à gauche. Quoi.
Axel, il est toujours dans ce rôle-là, c'est-à-dire c'est un appui, c'est un support, c'est quelqu'un qui travaille sur le fond des dossiers avec nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des fois, chacun peut être la tête dans le guidon et il va saisir de sujets qui l'intéressent et bosser dessus pour nous dire, tiens, il faudrait que vous poussiez ci, il faudrait que vous poussiez ça à la ville, où il va pouvoir questionner des fois sur des délibérations qu'on n'a pas pris le temps d'étudier dans le détail, parce que c'est dur de connaître toutes les délibérations. Une délibération, c'est un contenu d'une décision, et en fait chacun construit ses décisions dans les délégations qu'il a, et t'as pas le temps forcément d'aller lire les délégations, ce que chacun a fait dans toutes les délégations, donc tu fais confiance. Mais c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui se repose des questions et qui peut dire ah ouais, mais ça, moi, ça me pose question et tout ça. Et donc Axel, il prend ce temps là mais c'est vrai que ta première question, à quoi tu sers Axel, c'est une bonne question, parce que quand on est conseiller municipal sans délégation, je pense que très vite on peut avoir l'impression qu'on sert à rien, parce que finalement on n'a aucune responsabilité qui nous est donnée. On est référent d'aucun service. On n'a pas de responsabilité qui nous est donnée autre que le jour du conseil municipal, voter ou pas les délibérations. Mmh. Et donc ça dépend.
Ce qui n'est pas rien quand même.
Ce qui n'est pas rien.
Ce qui n'est pas rien. Mais.
Mais.
Bah, mais qu'au final, c'est pas là que se fait la décision. Enfin, c'est pas le conseil municipal, c'est pas une chambre d'enregistrement, c'est pas que ça. Mais c'est quand même un vote sur des choses qui ont été écrites avant, discutées avant, affinées avant, notamment en commission, mais également dans des discussions de majorité. Hein, concrètement, à Blois, les choses, elles se construisent là, et puis avant, dans les services. Donc c'est tout un cheminement, et le conseil municipal, ce n'est que l'étape finale d'une prise de décision, mais on acte la décision d'une certaine manière.
Je dirais que le moment où tu signes devis pour tes artisans, quand tu construis ta maison, c'est le moment qui t'engage, parce que d'un coup, tu t'investis l'argent et tu y vas, tu fais ton chantier. Mais c'est pas là que les choses se jouent, c'est dans toute la préparation. Quand tu construis ta maison, quand on dessine les plans, quand tu choisis les artisans. Et finalement, le moment du conseil municipal, c'est le moment où tu vas signer, la décision et tu dis ça y est, on lance les choses. Mais ce qui est important, c'est tout ce qui se passe avant, c'est quand tu construis ta décision et quand tu fais tes plans, les plans de ce que tu prépares. Et donc, un conseil municipal... peut avoir l'impression d'être une plante verte au sein d'un conseil municipal si on ne lui donne pas un rôle pour travailler sur ces plans-là avec nous, tu vois. Et je pense que, est-ce qu'un conseiller municipal sans délégation se sent bien ou pas dans une majorité et se trouve sa place ou pas, ça dit quelque chose de la qualité de la démocratie au sein de la majorité.
Alors Axel, je repose une question différemment. Est-ce que tu sens être une plante verte au sein de cette majorité?
Non, en tout cas, j'essaye de pas l'être.
C'est différent déjà. J'essaie de pas l'être, donc ça veut dire que
non, mais en fait,
potentiellement, tu pourrais l'être. Donc on c'est pas spontané que tu
ah
sois utile.
Ah oui, non, mais je pourrais très clairement ne rien dire et puis être là juste pour voter le jour du conseil municipal. C'est pas très compliqué de tenir ce discours-là. Enfin, c'est même pas un discours, c'est une position qui est assez facile à tenir. Moi, j'essaye d'être un peu, pas offensif, mais de creuser certains trucs. On peut pas, faut choisir ses combats, très clairement. Là, tu parlais de plan de maison, etc. Effectivement, là où peut-être je me suis le plus impliqué, c'est à différents moments dans ce mandat pour l'instant, il y a eu des moments où on a eu une vision sur un sujet donné, on a essayé d'avoir une vision un peu globale, de faire un plan de bataille un peu sur un sujet. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu par exemple le plan de sobriété de la ville. Récemment, il y a des discussions autour du plan piéton-vélo. Et c'est des moments où on dézoome un peu ou sur une thématique donnée, on ne prend pas une décision, mais on essaye de prendre un ensemble de décisions, en tout cas d'avoir une vision globale d'un sujet et d'axer les choses par rapport à ce sujet-là. Donc, sur ces moments de prise de recul, c'est des moments où je me suis un peu plus impliqué. Et d'ailleurs, ce n'est pas fini, hein, parce que c'est des sujets qui avancent. Mais voilà, j'ai essayé de trouver ma place, notamment dans ces moments-là, essayer d'avoir une vision exhaustive de ces sujets et de formuler des propositions et d'essayer d'argumenter, etc. D'aller aussi chercher ailleurs ce qui se faisait, hein, typiquement sur le sujet des plans piéton-vélo, qui est un sujet qui a été initié ces derniers temps et là qui se concrétise de plus en plus. On a essayé moi j'ai passé beaucoup de temps à aller voir ce qui se faisait dans des villes un peu équivalentes à Blois, des territoires un peu similaires à Aglopolis, pour donner des idées, donner des exemples, que ce soit en France ou à l'étranger, et pour les fournir en fait au service même, hein, parce que le but c'était de venir nourrir la réflexion des collègues et au sens large de la collectivité.
Et ce qui est intéressant, c'est quand t'as pas de délégation, ça veut dire que t'as pas de rémunération, t'as pas de... Axel, c'est quelqu'un qui n'a pas de délégation, donc pas de responsabilité directe de lien avec les services. Donc, son travail est bénévole. Ça veut dire que c'est vraiment un citoyen qui s'engage pour des valeurs et un militantisme et qui n'a rien à y gagner d'autre que l'idée d'avoir influencé la décision politique. Tu vois, il vient à tous les conseils municipaux, il vient aux commissions, qui sont les moments où on présente le contenu des délibérations. Et il participe au groupe de travail tous les lundis midi qu'on a pour justement partager l'information entre nous dans le groupe Blois naturellement. Mais tout ça est bénévole. C'est-à-dire qu'on est sur un citoyen engagé militant et qui fait ça. Donc ça comprend aussi qu'on donne plus ou moins de temps, étant donné que tout ce temps-là, on ne donne que ce qu'on veut.
Si on peut. Je nuancerai juste à Blois, on a un cas particulier, on a quand même les conseils municipaux ont quand même une participation, une indemnité. Ouais. De l'ordre, ouais. Alors pour être, c'est l'ordre de 100 euros pour 110 euros par mois pour la ville de Blois, et je crois que l'aglo ça va être quelque chose comme 120. Mais c'est vrai que je fais pas ça du tout pour ça peut pas être un travail, ça je travaille à 100% à côté, voire plus, et après, il faut arriver à trouver la place pour cet engagement-là, ces mandats-là, dans sa vie professionnelle et personnelle. Donc voilà, après, c'est de l'organisation, c'est des choix, c'est un peu de dépense d'énergie, des fois, mais on essaye de faire ce qu'on peut, quoi.
Ben moi, j'en savais rien, que du coup, il y avait une petite indemnité, mais qu'il y avait... Moi, je pensais qu'il y avait une indemnité, comme tous les conseillers municipaux.
En fait, un conseiller municipal, peut-être ça va être, donc, tu dis, de l'ordre de 100 euros, après délégué... t'es peut-être à 300 ou quelque chose comme
non,
ça.
Non, c'est un petit peu plus quand même. Mais je sais plus. Après, de toute façon, c'est
gradué en fonction de du nombre de la quantité de responsabilité, donc la quantité d'engagement que ça te demande.
Objectivement, être adjoint à Blois pour le temps que ça, enfin pour voir ça de l'extérieur, mais le temps que ça nécessite, c'est les gens font pas ça pour l'argent, clairement. Mais c'est vrai que ça permet au moins de se libérer une journée, deux journées. De son boulot pour faire ça. Moi aujourd'hui j'ai pas cette capacité là, mais du coup j'ai un positionnement qui est différent, mais on essaie d'être utile dans ce cadre là de contraintes de vie perso pro de notre énergie à tous.
Donc on s'implique forcément différemment parce qu'on n'a pas tout à fait le même, mais par contre on a deux choses qui nous relient, je dirais, et on va pouvoir en reparler. C'est que tous les deux, en fait, dans notre vie professionnelle, on fait de la planification, et que tous les deux, on a une vision de la politique qui est très sur une vision d'union de la gauche et de comment on fait du commun, quoi. Voilà. Sur des sujets et en balayant l'ensemble des sujets des politiques publiques.
Eh ben, écoutez, je vous propose de parler de tout ça dans un prochain épisode, si vous voulez bien. Pour l'instant, on va dire au revoir aux personnes qui nous écoutent. Et puis, Axel, si tu veux bien, tu reviens en semaine prochaine.
Eh ben, avec plaisir, Gaël.
Merci beaucoup.
Salut, Gaël.
À la semaine prochaine.
Salut, Axel.
Salut.
Salut.
Tu t'appelles Nico.
Et tu t'appelles Gaël.
Tu es l'élu bavard.
Et toi, t'es le compère réalisateur.
Ouais, exactement. On est mi-mandat, Nicolas.
Déjà, 100 épisodes, c'est dingue.
Ouais, et si jamais vous vous posez des questions sur notre podcast, on a un hors-série qui s'appelle « C'est quoi journal de bord d'un élu local ?» Vous le trouverez entre l'épisode 79 et l'épisode 80.
Et puis, vous pouvez vous abonner à nos podcasts sur toutes les plateformes.
Apple Podcasts.
Deezer, Spotify, Google Podcasts, tout ça, tout ça. Et on a un site internet dédié sur Ocha.
Et on est aussi diffusé sur Studio ZEF.
Agitateur de fréquence.
C'est sur 91.1 dans l'émission La Lorgnette.
Avec Thomas et Clémentine.
Ouais, c'est chaque jeudi à 17h.
Et on remercie aussi Julien Soula.
Pour le graphisme.
Et puis Clément Horry.
Pour la musique.
Elle est trop top.
Ouais, tout ça nous accompagne beaucoup. Et alors,
nous met de bonne humeur.
Merci à vous aussi d'écouter. Et
on se dit à tout de suite sur le prochain épisode.